Souvenez-vous de l'échec retentissant du film « Les portes du ciel ». En jetant un coup d'œil dans les coulisses, peut-être auriez-vous aperçu un groupe d'associateurs créatifs au schéma interne de référence, allant tous vers un but et ne regardant pas ce dont ils devaient s'écarter. Il aurait fallu parmi eux un différenciateur qui dise
« Attendez un peu, avez-vous pensé à ça ?»
et qui le dise de façon à se faire comprendre par des créateurs au schéma interne de référence.
Les modes associatifs ou dissociatifs ont une extrême importance car ils jouent dans d'innombrables domaines de notre vie, même au niveau de notre nutrition. Les associateurs radicaux finissent souvent par très mal se nourrir car ils veulent toujours manger la même chose. Ils refuseront les fruits, car une pomme, par exemple, peut être trop différente d'une autre pomme, avoir un autre goût, une autre texture, une peau plus ou moins épaisse, être plus ou moins mûre, etc.
Ils préféreront s'en tenir à une certaine marque de hamburger, car ils sont sûrs ainsi de ne pas avoir de surprise. Même si ce n'est pas bon pour leur organisme, cela réchauffe leur âme d'associateur.
Si vous devez pourvoir un poste qui concerne un travail répétitif au long des années à venir, allez-vous embaucher un différenciateur ?
Évidemment, non. Il vous faut un associateur. Il sera très heureux de garder cet emploi aussi longtemps que vous aurez besoin de lui. En revanche, s'il s'agit d'un travail qui change constamment ou requiert une grande souplesse, vous ne choisirez pas un associateur. Ces distinctions sont très utiles quand nous avons besoin de trouver quel genre de travail peut le mieux et le plus longtemps satisfaire un individu donné. Bon, eh bien, on vous a déjà passé une chanson sur le foot. On va continuer à vous parler de foot. Et Marie-Hélène me disait, texto, je le jure, moi, je ne me vois pas parler de foot. Alors, c'est moi qui vais vous parler de foot maintenant. Prenez le cas d'un gardien de but dans une équipe de football. Quand il a commencé sa carrière, il tirait et marquait avec une incroyable habileté. Mais parce qu'il était un différenciateur, il s'est bientôt senti obligé de changer ses habitudes et il a eu un long passage à vide. On lui expliqua qu'il devait se concentrer sur les différents fanions placés derrière les buts dans chaque stade. En se focalisant sur les différences qui existaient entre ces fanions, il satisfait son âme de différenciateur tout en donnant le meilleur de lui-même, toujours de la même façon.
Utiliseriez-vous les mêmes techniques de persuasion avec un associateur et un différenciateur ?
Leur donneriez-vous le même travail ?
Traiteriez-vous de la même manière deux enfants, l'un qui ne voit dans le monde que des ressemblances, l'autre que des différences ?
Évidemment, non. Cela ne veut pas dire que ces modes sont immuables. Nous ne sommes pas des chiens de Pavlov. Nous pouvons, dans une certaine mesure, modifier nos stratégies, mais seulement si quelqu'un nous explique dans notre propre langage comment le faire. Il faut une patience immense et d'incroyables efforts pour transformer un associateur en différenciateur. Mais cela peut l'aider à tirer meilleur parti de l'approche qu'il a du monde et à se montrer moins pessimiste et doctrinaire. C'est une des clés qui permettent de vivre avec des gens différents de vous. D'un autre côté, il est bon pour les associateurs d'apprendre à voir des différences, car ils ont tendance à généraliser. C'est là un excellent exercice pour un associateur que de se demander en quoi la semaine qui vient de passer est différente de la précédente, ou la ville qu'il visite de celle où il habite. Les différences sont aussi le piment de la vie.
Un associateur et un différenciateur peuvent-ils vivre heureux ensemble ?
Certainement, tant qu'ils se comprennent, c'est-à-dire tant qu'ils ont conscience, en cas de différend, que l'autre n'a pas tort ou qu'il n'est pas méchant, mais qu'il perçoit les choses sous un autre angle. Vous n'avez pas besoin d'être semblable pour établir une relation, mais de vous rappeler que vous ne voyez pas le monde de la même façon et d'apprendre à respecter et à apprécier l'autre.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Voilà, Leonard Cohen, qu'on a toujours autant de plaisir à retrouver avec cette chanson que vous avez reconnue, Suzanne. Eh bien, ça nous permet maintenant d'aborder le cinquième métaprogramme intitulé « La stratégie de la persuasion », autrement dit, ce qu'il faut faire pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Dans ce cinquième métaprogramme, nous aborderons deux points. Point petit a, découvrir quels sont les blocs sensoriels auxquels fait appel votre interlocuteur. Point petit b, quelle est la fréquence à laquelle il a besoin de recevoir ses stimuli.
Si vous voulez connaître le métaprogramme de persuasion de votre interlocuteur, demandez-lui.
Comment savez-vous que quelqu'un fait un bon travail? Avez-vous besoin de le regarder faire, d'entendre dire du bien de lui, de travailler avec lui ou de lire un dossier sur lui?
La réponse que vous recevrez combinera peut-être plusieurs de ces éléments. Pour croire que quelqu'un fait un bon travail, certains auront par exemple besoin de voir ce qu'il fait et d'entendre dire du bien de lui. Demandez ensuite
« Au bout de combien de temps êtes-vous convaincu de la valeur de quelqu'un ?»
Il y a quatre réponses possibles.
Immédiatement, il lui suffit d'avoir une preuve, une fois la preuve de ce que quelqu'un fait un bon travail pour le croire.
Au bout de plusieurs fois.
Au bout d'un certain temps, 6 mois ou 1 an par exemple.
Ou jamais de façon définitive. Dans ce dernier cas, l'autre doit démontrer sa valeur continuellement, à chaque occasion.
Si vous êtes à la tête d'une entreprise, une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est d'établir un rapport de confiance et de sympathie avec ceux qui y détiennent des postes clés. S'ils savent qu'ils comptent pour vous, vos employés travailleront mieux et avec plus d'ardeur. S'ils ne vous font pas confiance, Ils ne se lanceront pas dans la bataille pour vous. Mais pour créer cette confiance, il faut entre autres choses savoir rester attentif aux différents besoins de chacun. Certains établiront une relation et la maintiendront. S'ils savent que vous jouez le jeu et que vous tenez à eux, vous pouvez nouer avec eux des liens qui dureront tant que vous ne les trahirez pas.
Mais cela n'est pas valable pour tous. Il y en a à qui cela ne suffit pas. Il leur faut autre chose, entendre un mot gentil, lire un mot, un rapport positif les concernant, sentir que vous les soutenez devant les autres, se voir confier une tâche importante. Ils sont tout aussi talentueux et tout aussi loyaux, mais ils ont besoin de vérifier plus souvent où ils en sont avec vous. Ils veulent avoir la preuve de ce que le lien que vous avez créé avec eux tient toujours.
De même, tout bon vendeur connaît des gens à qui il a vendu une fois quelque chose et qui sont devenus de fidèles clients. À d'autres, il lui faudra présenter plusieurs fois son produit avant qu'il ne se décide ou attendre plusieurs mois avant qu'il ne repasse une commande. Et puis, il y a le chouchou du vendeur, celui qui utilise son produit depuis des années mais qui veut, dès qu'il vous voit, savoir pourquoi il va de nouveau vous l'acheter. Il faut à chaque fois le persuader. Le même processus existe dans nos relations personnelles de façon encore plus intense. Certaines personnes, si vous leur avez apporté une fois la preuve de votre amour, y croiront pour toujours. D'autres auront continuellement besoin de nouvelles preuves. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce métaprogramme. Il vous permet de savoir quel plan suivre pour convaincre l'autre, de déterminer à l'avance ce qu'il vous faudra faire et de ne pas se sentir excédé par ses demandes répétées. Vous vous attendez à cette attitude. Sixième métaprogramme, possibilité contre nécessité.
Demander à quelqu'un pourquoi il a voulu travailler là où il travaille ou pourquoi il a acheté la voiture qu'il a ou la maison dans laquelle il habite. Certains sont avant tout motivés par ce dont ils ont besoin, plus que par ce qu'ils veulent. Ils font les choses parce qu'ils doivent les faire. Ce ne sont pas les possibilités qui leur sont offertes qui les poussent à agir. Ils ne recherchent pas des expériences infiniment variées, mais passent dans la vie en prenant ce qui vient, ce qui est à la portée de leurs mains. Quand ils ont besoin de trouver un emploi, une maison, une voiture, ou même quelqu'un avec qui vivre, ils vont faire un tour et acceptent ce qu'ils trouvent.
D'autres se mettront en quête de nouvelles possibilités. Ils sont moins motivés par ce qu'ils ont à faire que par ce qu'ils veulent faire. Ils rechercheront de nouvelles expériences, de nouveaux choix, de nouvelles voies à prendre. Celui qui est poussé par la nécessité s'intéresse à ce qui est connu, ce qui est sûr.
Celui qui est motivé par la possibilité est également attiré par l'inconnu. Il veut savoir ce qui peut arriver, quelles occasions s'offriront à lui.
Mettez-vous à la place d'un employeur. Qui vaut-il mieux choisir ?
Certains répondront probablement
« Quelqu'un qui est motivé par la possibilité. »
Car après tout, avoir le sens du possible ne peut qu'enrichir la vie.
Pour la plupart d'entre nous, et même pour bon nombre de ceux qui sont motivés par la nécessité, rester ouvert à une infinie variété de nouvelles directions ne peut offrir que des avantages.
Mais la réalité n'est pas aussi simple. Il faut savoir, pour exécuter certaines tâches, se montrer pointilleux, stable et cohérent. Prenez l'exemple d'un homme chargé du contrôle de la qualité des voitures dans une usine d'automobile. Avoir le sens du possible ne lui nuira pas, mais il aura probablement plus besoin du sens de la nécessité. Il doit savoir exactement comment il faut que soient ces voitures et vérifier si elles correspondent aux normes. Il y a de grandes chances pour qu'un individu motivé par la possibilité s'ennuie à mourir à un tel poste. Mais un autre, motivé par la nécessité, s'y sentira parfaitement à l'aise.
Les gens que motive la nécessité ont d'autres vertus encore. Certains emplois requièrent une permanence particulière. On ne peut y placer que des gens qui y resteront longtemps. Un individu motivé par la possibilité cherche constamment à se lancer dans de nouvelles entreprises, à relever de nouveaux défis. S'il trouve un travail qui lui propose de nouvelles chances, il vous quittera probablement. Il n'en va pas de même avec l'âme quelque peu laborieuse de celui que motive la nécessité. Il accepte un emploi parce qu'il en a besoin et le garde parce qu'il a besoin de travailler pour vivre. Seuls les bâtisseurs de rêves, les bravaches, les risque-tout peuvent répondre aux exigences de certains emplois. Lorsqu'une société se diversifie et se lance dans de nouvelles branches, elle doit embaucher des gens ouverts à toutes les possibilités. Mais, pour les postes qui requièrent solidité, cohérence et durée, les individus principalement motivés par la nécessité conviendront mieux. Il est très important pour chacun d'entre nous de connaître son métaprogramme personnel, car cela nous permet de choisir le métier qui correspond le mieux à nos besoins.
Le même principe s'applique aux motivations de vos enfants. Disons par exemple que vous voulez souligner les vertus de la réussite scolaire et des études universitaires.
Si c'est la nécessité qui motive votre enfant, vous devez lui montrer pourquoi il a besoin de bien travailler à l'école. Vous pouvez lui énumérer tous les métiers pour lesquels des diplômes sont indispensables, lui expliquer pourquoi il faut avoir de bonnes bases en mathématiques pour devenir ingénieur ou en langue pour être professeur.
Si c'est la possibilité qui le motive, vous devrez adopter une approche différente. Ce qu'il doit faire l'ennuie. Montrez-lui donc toutes les possibilités qui sont offertes à ceux qui possèdent une solide instruction. Faites-lui voir comment le fait même d'apprendre est le chemin qui ouvre le plus de possibilités. Emplissez son cerveau d'images de nouvelles voies à explorer, de nouvelles portes à ouvrir, de nouvelles découvertes à faire. Quelles que soient ses motivations, vous arriverez au même résultat si vous avez employé la méthode qui lui convient.
Septième métaprogramme, notre façon de travailler.
Chacun a sa propre stratégie dans ce domaine. Certains ne sont heureux que s'ils restent indépendants. Ils ont du mal à travailler avec d'autres et ne font rien de bon s'ils se sentent continuellement supervisés. Ils doivent faire marcher tout seuls leur boutique.
D'autres, au contraire, fonctionnent mieux en tant qu'éléments d'un groupe. Leur stratégie est dite de coopération. Ils veulent toujours partager les responsabilités, quelles que soient les tâches qu'ils entreprennent.
D'autres ont enfin une stratégie de proximité, quelque chose qui se trouve à mi-chemin des deux premières. Ils préfèrent travailler avec d'autres gens tout en gardant l'entière responsabilité d'une tâche donnée. Ils tiennent les rênes, mais ne sont pas seuls.
Si vous voulez obtenir le maximum de vos employés, de vos enfants ou de ceux que vous supervisez, déterminez leur stratégie. La façon de travailler qui les rend le plus efficaces. Il vous arrivera de découvrir qu'un de vos employés est brillant mais insupportable, car il ne veut faire les choses que comme il l'entend. Il s'agit peut-être tout simplement de quelqu'un qui n'a pas le profil d'un employé, qui devrait diriger sa propre affaire, et finira par le faire si vous ne lui offrez pas une voie dans laquelle il pourra s'exprimer comme cela lui est nécessaire. Et puisqu'il a de la valeur, n'hésitez pas à chercher un moyen de valoriser au maximum ses talents et de lui donner le plus d'autonomie possible. Si vous l'insérez dans une équipe, il rendra les autres fous. Mais si vous lui offrez suffisamment d'indépendance, il se montrera peut-être irremplaçable.
Vous avez sans doute entendu parler du principe de Peter, de cette idée selon laquelle nous sommes tous promus au niveau de notre incompétence. Cela s'explique en partie par le fait que les employeurs n'accordent souvent aucune attention aux stratégies de travail de leurs employés.
Il y a des gens qui travaillent mieux dans un cadre de coopération. Ils tirent énormément de leurs échanges avec les autres et des rapports humains en général. Les récompenseriez-vous de leur succès en les lançant dans une aventure individuelle ?
Non, pas si vous voulez tirer le meilleur parti de leurs capacités.
Cela ne veut pas dire que vous devez toujours les laisser à la même place. Mais il faut offrir les promotions et nouvelles expériences qui permettent à chacun de mettre en œuvre ses qualités, pas ses défauts.
Ceux dont la stratégie répond à la proximité veulent faire partie d'une équipe, mais réaliser seuls leur travail. Quelle que soit la branche dans laquelle ils exercent, il existe toujours un poste qui correspond à l'une de nos trois stratégies. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment chacun travaille le mieux et trouver à chacun une tâche dans laquelle ils s'épanouissent.
Voici maintenant un exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Après avoir entendu ce chapitre, entraînez-vous à déterminer les métaprogrammes des gens. Demandez-leur
« Que voulez-vous dans une relation ? Ou une maison ? Une voiture ? Un métier ? »
Comment savez-vous que vous avez réussi quelque chose ?
Quel est le rapport entre ce que vous avez fait ce mois-ci et le mois dernier ?
Au bout de combien de temps êtes-vous convaincu de ce que l'on cherche à vous démontrer ?
Parlez-moi d'une expérience professionnelle que vous avez particulièrement appréciée et expliquez pourquoi vous l'avez appréciée.
Est-ce que celui à qui vous posez ces questions reste attentif ? A-t-il l'air de s'intéresser à ce que vous lui dites ou bien semble-t-il absent ?
Peu de questions vous permettront de réussir à déterminer les programmes dont nous avons parlé. Si vous n'obtenez pas les renseignements dont vous avez besoin, formulez votre question différemment, et ce, jusqu'à ce que vous arriviez à vos fins.
Vous avez des difficultés à communiquer avec quelqu'un ?
En réfléchissant, vous vous apercevrez qu'il suffit de comprendre les métaprogrammes de cette personne pour mieux ajuster votre communication à son langage et faire disparaître ce problème.
Vous vous sentez frustré par quelque chose. Quelqu'un que vous aimez ne se sent pas aimé. Quelqu'un pour qui vous travaillez s'arrange toujours pour vous prendre à rebrousse-poil. Ou quelqu'un que vous avez essayé d'aider n'a pas répondu à votre offre.
Il vous faut identifier le métaprogramme opérateur de l'autre. Identifier ce que vous faites et ce que l'autre fait.
Prenons des exemples. Vous êtes convaincu qu'on vous aime parce que vous en avez eu une fois la preuve. Mais votre partenaire a besoin que vous l'assuriez constamment de votre amour. Ou vous proposez un projet qui fonctionne sur des similitudes, alors que celui qui vous supervise ne veut entendre parler que de différences.
Ou encore, vous tentez d'avertir quelqu'un de certains dangers qu'il doit éviter, et il ne s'intéresse qu'à ce qu'il cherche à réaliser.
Lorsque vous utilisez un code erroné, votre interlocuteur ne peut recevoir le message que vous lui transmettez. Ce problème se pose aussi bien aux parents dans leurs relations avec leurs enfants qu'aux responsables des entreprises avec leurs employés.
Nous n'avons souvent pas assez développé l'acuité qui nous permet de reconnaître et d'évaluer les stratégies fondamentales qu'utilisent les autres. Lorsqu'un message ne passe pas, il n'est pas besoin d'en changer le contenu. Ce qu'il faut, c'est développer en vous la souplesse qui vous permettra d'en altérer la forme afin qu'il corresponde au métaprogramme de celui ou de celle avec qui vous voudrez communiquer.
Vous communiquerez souvent plus efficacement en utilisant plusieurs métaprogrammes à la fois. Nous étions un jour en désaccord, nos associés et moi, avec un homme qui avait travaillé pour nous et n'honorait pas son contrat. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai voulu entamer la discussion de manière positive en lui disant que je cherchais une solution qui nous satisfasse tous les deux. Il m'a immédiatement répondu
« Cela ne m'intéresse pas. J'ai cet argent et je vais le garder. Dites à votre avocat que ce n'est plus la peine qu'il me harcèle de ses coups de téléphone. »
Ainsi, au lieu d'aller vers un compromis, il cherchait à s'écarter de ce qui le dérangeait. J'ai continué.
Nous faisons ce travail parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aider les autres. Nous vivons mieux qu'eux, et en travaillant ensemble, nous pouvons y arriver.
Je me moque bien d'aider les autres, a-t-il répondu. Tout ce que je veux, c'est vivre heureux, ici.
La conversation a continué sur le même mode, sans que nous arrivions à rien. Mais il devenait de plus en plus clair que cet homme avait une stratégie d'évitement, qu'il recherchait dans ses relations son intérêt personnel, qu'il était un différenciateur, avait un schéma interne de référence, ne croyait que ce qu'il voyait et entendait, avait besoin de preuves constantes.
Ces métaprogrammes n'arrangeaient pas notre malentendu, d'autant que les miens étaient dans l'ensemble exactement à l'opposé. Au bout de 2 heures, nous en étions toujours au même point, ou presque, et j'allais renoncer quand la lumière s'est enfin faite dans mon esprit. Il fallait que je change de tactique.
Ce que vous avez en tête, eh bien moi, je l'ai là.
Lui ai-je dit en lui montrant mon point.
J'avais ainsi pris son schéma interne de référence, que je ne pouvais manipuler avec des mots, et l'avais extériorisé de façon à pouvoir le contrôler.
Je vous donne 1 minute, ai-je ajouté. Vous avez beaucoup à perdre si vous ne vous décidez pas. Personnellement, je n'ai rien à perdre, mais vous, oui.
Il y avait maintenant pour lui une autre chose dont il devait s'écarter.
J'ai continué sur ma lancée.
Vous ?
Intérêt personnel ?
Allez perdre beaucoup.
Chose à éviter.
Parce que vous croyez que nous ne pouvons pas trouver ensemble de solution.
En bon différenciateur, il se mit à penser le contraire, qu'il devait y avoir une solution.
Vous feriez mieux de réfléchir.
Schéma interne de référence.
Avez-vous envie de payer, jour après jour, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui ? Parce que je ne laisserai pas les gens oublier.
Stratégie de persuasion.
La façon dont vous vous êtes conduit avec nous et ce que nous avons fait. Vous avez 1 minute pour vous décider.
Soit vous finissez ce travail, soit vous perdez tout. Tout ce qui vous intéresse. Et pour toujours. Mettez-moi au défi, vous verrez que je sais tenir parole.
20 secondes plus tard, il bondit de son siège en disant
« Écoutez les gars, j'ai toujours voulu travailler avec vous. Je sais que ça peut marcher entre nous. »
Il ne disait pas cela à contre-cœur. Il s'était levé dans un élan plein d'enthousiasme, comme si nous avions été de vieux amis.
Je voulais juste savoir que nous pouvions parler ensemble.
Pourquoi se montrait-il soudain si positif ?
Parce que j'avais utilisé ses métaprogrammes et non mon idée du monde pour le motiver.
Ce que je lui avais dit aurait été pour moi une insulte. Je me suis toujours sentie frustrée quand les gens avaient un comportement différent du mien, jusqu'à ce que je comprenne que chaque individu fonctionnait selon ses propres métaprogrammes.
Si les métaprogrammes que nous venons de définir sont parmi les plus importants et les plus puissants, il ne faut surtout pas oublier qu'il en existe d'autres et que seule votre sensibilité, votre imagination peut ou non vous en faire prendre conscience. Établir de nouvelles distinctions constitue une des clés de la réussite. Les métaprogrammes sont les outils qui vous permettront de définir les distinctions fondamentales grâce auxquelles vous arriverez à traiter les problèmes que vous rencontrez dans vos relations avec les autres. Ne vous limitez pas à ceux que nous avons étudiés ici. Devenez un étudiant en possibilités. Jaugez, évaluez constamment les gens qui vous entourent. Notez les schémas particuliers à travers lesquels ils perçoivent le monde et cherchez si d'autres ont des schémas similaires. Une telle approche vous fera développer un nouvel ensemble de distinctions et vous saurez ensuite comment communiquer efficacement avec toutes sortes de gens.
On peut par exemple distinguer les gens qui s'appuient sur leurs sentiments de ceux qui se réfèrent à un raisonnement logique. Pour les persuader de quelque chose, vous ne vous adresserez évidemment pas à eux de la même façon.
Certains ne prennent de décision qu'en se référant à des données précises, à des chiffres. Ils doivent, avant de penser à un projet dans son ensemble, s'assurer de ce que chacune de ces étapes est réalisable.
D'autres, au contraire, ne se lanceront dans une aventure que convaincus par un concept ou une idée générale. Ils fonctionnent sur la globalité. Ils veulent voir l'image tout entière et, si elle leur plaît, ils se pencheront alors sur les détails.
Il y a aussi des gens qui n'aiment que les commencements. Ils se passionnent pour les idées nouvelles qui leur viennent, mais s'en désintéressent bientôt pour se tourner vers autre chose.
À l'opposé, certains se polarisent sur l'accomplissement des choses. Ils ont besoin d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils font, qu'il s'agisse de lire un livre ou d'exécuter un travail donné. Il existe des gens qui se réfèrent sans cesse à la nourriture. Oui, à la nourriture. Pratiquement tout ce qu'ils font ou envisagent de faire est évalué en termes de nourriture. Demandez-leur comment on se rend à tel ou tel endroit. Et ils vous répondront.
Descendez la rue jusqu'au McDonald's et tournez à droite. Vous trouverez ensuite une boulangerie. Prenez alors la première à gauche et quand vous arriverez en face d'un immeuble rose bonbon, tournez de nouveau à droite.
Ils sont allés au cinéma. Demandez-leur si cela leur a plu. Ils vous répondront qu'il n'y avait pas d'esquimaux à l'entracte. Après un mariage, ils vous parleront de la pièce montée.
Quelqu'un pour qui les rapports humains sont fondamentaux vous parlera des gens qu'il a rencontrés à ce mariage ou des héros du film, tandis que celui qui accorde une importance prépondérante aux activités vous expliquera ce qui s'est passé à l'église ou au cours de la réception, analysera l'intrigue du film, etc. Il ne nous reste qu'une seule chose à vous dire, chers auditeurs, une chose que nous aimons à dire en fin d'émission.
Au revoir.